On a deux parties de cette semaine. Dans Shad Bahar, c'est Bahar Sinai, en fait, et la paracha de Bechukotai, qui contient en particulier la première liste de la lot, première liste dans laquelle on voit, merci, on voit ce qui peut arriver, enfin, ce qui va arriver, ce qui est arrivé selon lui. À partir du moment où, sur cette terre d'Eretz Israël, on ne se comporte pas comme il le faut. Alors d'abord, Parshat Bahar. Alors, tout à coup, on revient, et on dit, Vaïdaber Hashem el Moshe, Vehar Sinai, les mots. Hashem dit à Moshe qu'il doit répercuter un enseignement qu'il va lui donner, et on précise que Hachem parle à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Et donc, la suite de ce que Moshe Rabbeinu va dire, parce que Moshe Rabbeinu va dire au Bnei Israël, d'abord elle venait Israël, et Amarta Alehem, tu vas dire au Bnei Israël, Itavo el Haaretz, Asher Ani Noten Lachem, lorsque vous arriverez dans le pays que je vous donne, Veshavta Haaretz Shabbat Lachem. La terre fera un Shabbat, Shabbat Lachem. Et on nous décrit, Shesh Shanim Tizra Sadecha, Shesh Shanim Tizmo Karmecha, la Satan de Ganacha, et Vuata, pardon, ou Bashana, Shvi'it, c'est la septième année, Shabbat Shabbaton Lachem, Shabbat Shabbaton Yé Laaretz, Shabbat Lachem, et comment ça se traduit? Sadra Lo Tizra, Karmecha, Lo Tizmo, etc. Donc, quand vous allez arriver en Eretz Israël, la terre va faire Shabbat. Et ce Shabbat, c'est un Shabbat Hashem. Alors, on va revenir là-dessus, mais vous savez, tout le monde connaît la fameuse question que Rashi rapporte. Ma'inyan Shmita, c'est l'Har Sinaï. Qu'est-ce que le problème de la Shemitah, de l'année sabbatique, qui est donc le premier sujet dont Moshe Rabbeinu va parler au Bnei Israël, qu'est-ce que ça a à voir avec le Sinaï? Pourquoi sur cette mitzvah-là en particulier, la Torah dit que ça a été dit à Moshe au Sinaï? Première objection, en quelque sorte, c'est que toutes les mitzvot ont été dites au Sinaï. On a reçu, c'est ça qu'on appelle la Malata Torah, on a reçu la Torah, et on a en particulier reçu toutes les mitzvot de la Torah. On les a reçues au Sinaï. Pourquoi tout à coup on nous dit ici, ah, la Shemitah au Sinaï, mais tout était au Sinaï. Donc, cette mention du Sinaï, qui est a priori superflue, comment est-ce qu'on va l'interpréter? Alors, on va dire, Rachid le cite, la ma Shemitah nemra laloteha ufateha. Dikdukea bisinai, Avkulan nemru klalotehen vedikdukehen bisinai. Kach knuya betorat kohanim. Donc Rachid dit, voilà ce que je vous cite, c'est un enseignement qui est écrit dans Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est le Midrash Halakha sur le Sefer Vayikra. Et donc c'est une, voilà, Rachid donne sa source et il dit que cette redondance ici de mentionner ici le Sinaï, c'est pour nous dire que de même que ici dans la Torah, on va nous énumérer les détails de la mitzvah de Shemitah. Shemitah, c'est donc l'année sabbatique. On va nous donner les détails. De la même, et ça, et on nous dit que ça a été donné au Sinaï. C'est-à-dire qu'au Sinaï, on n'a pas seulement donné, si vous voulez, les têtes de chapitre ou des généralités. On a donné au Sinaï, et donc nous avons reçu au Sinaï, sur toutes les mitzvot, par analogie avec ce qui est écrit ici sur la Shemitah, on a reçu toutes les mitzvot et on a reçu tous les détails même de chaque mitzvah. Tout ça, cet enseignement nous a été donné, voilà, au Sinaï. Donc, la totalité de l'enseignement, toute l'épaisseur, si vous voulez, de tout ce qu'on écrit sur une mitzvah, tout ça, ça vient du Sinaï. Rachidi, voilà, je vous ai cité ce Torah de Kohanim, c'est-à-dire ce Midrash à la fin. Et Rachid continue et dit, Venir Eli, Ekar Pirushat. Alors Rachid dit, OK, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Le fichier non matzino, Shmitat karkaot shenishnit be'arvot Moav, le Mishneh Torah. Vous savez que la Torah, elle a été enseignée au Sinaï, elle a été répétée de Arvot Moav, dans les plaines de Moav, et ce qui a été répété à ce moment-là, c'est ce qui est écrit dans le Sefer Dvarim. Dans Sefer Dvarim, on retrouve pas mal de dinim qui ont déjà été enseignés et qui sont réenseignés une deuxième fois durant les pérégrinations d'Ebné Israël entre le moment où, enfin, les fameux 40 ans. Et, dit Rashi, la Shemitah, elle n'est pas répétée dans le livre de Dvarim. Il n'y a pas de répétition. Donc, on est obligé de dire que n'ayant pas d'autres sources sur la Shemitah, ben, tout ce qu'on doit savoir sur la Shemitah, on le sait du Sinaï, puisque ça n'a pas été répété. Sur les autres mitzvot qui ont été répétées, on aurait pu penser, bon, ben, Hachem nous a donné au Sinaï les grands titres, et puis on a eu du temps, mon cher Rabbeinu nous a enseigné le reste, c'est-à-dire tous les détails, au fur et à mesure des régrinations d'Ebné Israël. C'est ce qu'on aurait pu penser, dit Rashi. Et donc le texte ici vient nous dire que de la même manière que dans la Shemitah, on était obligé de dire qu'on a tout reçu au Sinaï, puisque ce n'est pas répété, alors même là où c'est répété, c'est une répétition, mais on a déjà entendu tout ça avec tous les détails au Sinaï sur toutes les autres mitzvot. Comme ça que Rashi apprend ce Torah de Kohanim qu'il a cité. Alors, on ne sait pas pourquoi la Shemitah fait, merci, fait exception. Pourquoi les autres mitzvot sont répétées, et maintenant on sait qu'elles sont vraiment répétées avec les détails, puisque on sait que tout a été donné au Sinaï, et donc quand il y a une répétition, c'est tout est répété. Alors pourquoi la Shemitah ne fait pas l'objet d'une répétition? Ça, Rachid n'en dit rien. On n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas du tout pourquoi la Shemitah aurait un statut à part. Bon, cette question-là, on ne va pas la traiter parce que Rachid ne donne aucun élément qui nous permette de traiter ça. Mais bon, la question se pose. Alors, dans la suite du texte, bon, c'est un petit peu ambigu parce qu'on a l'impression que quand les Bnei Israël vont arriver en Eretz Israël, immédiatement il y aura Shabbat. Mais il faut entendre que le Shabbat, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout seul. Dans Shabbat, si vous voulez, il y a, dans Shabbat de Réchit, il y a Cheshet Yamim Ta'avot ou Vashvi'i Shabbat. Pendant 6 jours, tu feras tous tes travaux, et le septième, ce sera le Shabbat. Donc, dire que la terre va faire Shabbat, c'est sur le même modèle. Il va y avoir 6 années de travail normal, et le Shabbat de la terre, c'est l'année sabbatique, donc le Shemitah, ça vient après ces 6 années-là. C'est la même structure que, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est comme un peu des fractales, c'est on fait en petit la même chose qu'il y a en plus grand. Ça veut dire que ce qui est fait dans la semaine, 6 jours plus un jour de Shabbat, au niveau des années, il y a la même chose, 6 années plus une année de Shabbat, c'est-à-dire la Shemitah.
Oui. On est bien d'accord que là, on est en train de sanctifier la terre.
On sanctifie pas la terre. On dit que la terre va respecter un Shabbat. Elle va faire un Shabbat la chaîne. C'est pas avec Kidashto, c'est marqué sur le Shabbat de Bereshit. On le dit dans la Tfila du vendredi soir. Kidashto, tu l'as sanctifié, Uverachto, et tu l'as béni. Ici, on dit simplement, elle va faire Shabbat. On parle pas de sanctification de la terre. Ce qu'on appelle couramment Kedushat Haaretz, on traduit par la sainteté de la terre, c'est pas que la terre a la sainteté en soi, c'est qu'il y a des dynimes de Kedusha qui concernent la terre, à savoir tous les dynimes de Shemitah d'abord, et ensuite de Péra, le fait qu'on n'ait pas le droit quand on moissonne un champ, on peut pas moissonner jusqu'au dernier carré. Faut en laisser une partie pour les pauvres. La glane, on doit la laisser. Les dynimes de Troumot ou Masrot, tous ces dynimes qui s'appellent des mitzvot à Tlouyot Vaharetz, des mitzvot qui dépendent de la terre et qui ne s'appliquent donc que en Eretz Israël, c'est l'expression, c'est dit dans l'expression Kedushat Haaretz. La terre n'a pas de Kedusha. Ça n'existe pas. Même quand le seul endroit où on parle de Kedusha, c'est pas du tout en Eretz Israël. C'est dit à Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu au buisson ardent, Hachem lui dit, enlève tes chaussures, parce que la terre sur laquelle tu es, c'est Admat Kodesh. C'est une Adama sainte. C'est pas dit sur Eretz Israël. C'est dit sur un morceau du Sinaï. C'est une terre du Sinaï. Mais en fait, toute la Kedusha de la terre, ou même la Kedusha du Sinaï, ce sont des Kedushot qui ne sont là, a priori, qu'au moment où Hachem parle. Quand Hachem parle au Sinaï, alors personne n'a le droit de monter sur la montagne, etc. Dès qu'il a terminé, les moutons peuvent aller contre Petre et tout le monde peut monter sur la montagne. Il n'y a aucune Kedusha résiduelle quand Hachem a parlé au Sinaï. Aucune Kedusha résiduelle sur la terre. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas cette idée de la notion de terre sainte. On peut presque dire, c'est pas de chez nous, quoi. Il y a de la Kdusha, mais c'est la Kdusha que nous mettons. C'est-à-dire, nous nous imposons, enfin, la Torah nous impose des halakhot particulières dans notre rapport avec la terre. Mais c'est pas la terre qui est la Kdusha, c'est notre comportement qui exprime ce qu'on appelle Kedushat Haaretz. La Kedushat Haaretz, c'est pas que quand on prenait une botte de terre, elle a de la Kedusha.
C'est la même manière qu'on vit pour un être humain, un juif qui est de chez Tiyou, c'est-à-dire de très saint.
Pas compris, venez.
Parallèlement, on peut mettre en. En
Oui.
parallèle, l'homme, quand il demande d'être, qui est le Shinti, vous serez saint,
Oui.
c'est-à-dire, c'est une matière qu'on
C'est
essaie
vous allez
de
vous. Mais vous serez seul, ce n'est pas qu'on est devenu un morceau de chat. C'est que vous avez des comportements qui expriment que vous, il y a quelque chose de particulier qui n'est pas de la sainteté au sens grand du terme. Par exemple, un sacrifice a la viande du sacrifice, elle a de la kdusha, elle est kdusha. C'est un morceau de kdusha et avec cette kdusha-là, on a des règles comportement aussi. Savez, mais c'est vraiment de la kdusha. Quelqu'un qui n'est pas habilité à en manger n'a pas le droit d'en manger.
nous, quand on fait les mitzvot, on appelle Hachem est parmi nous. Et à ce moment-là, ça devient
Mais
ça.
nous disons, Hachem qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. C'est-à-dire, le fait qu'Hachem nous ait donné des mitzvot, ça crée un rapport entre l'homme et Hachem. Hachem est le metsavé. Et celui qui ordonne, nous on est le metsouvé, celui qui reçoit l'ordre. Et la mitzvah, tout ça c'est la même graphie. C'est même tzadik vavé, ça se lit de toutes ces manières-là, mais c'est la même graphie, il y a les même quatre lettres. Et nous disons bien, Ideshanu ve mitzvotah, le fait que tu nous aies donné des mitzvot, ça nous donne un certain statut de Kedusha, mais qui ne veut pas dire que nous, on a un morceau de Kedusha. C'est un certain statut, ça veut dire que, voilà, on peut presque dire, ben, à cause de ça, noblesse oblige.
Et quand on fait les mitzvot, on devrait être un petit peu ça quand même.
On devrait être quoi?
Un peu kadosh.
Mais qu'est-ce que c'est un peu Kadosh?
Ben, je sais pas ce que je n'ose pas dire qu'on devient kadosh, mais je
C'est bien
fais.
ce que vous voulez dire, seulement vous n'osez pas le dire, c'est
N'osez pas
tout.
dire. Parce que Hachem donne les mitzvot, ça nous sanctifie. Si ça nous
Mais nous
sanctifie.
sanctifier, mais qu'est-ce que ça veut dire, sanctification
Ben,
de l'homme? Ça veut dire que quand vous avez un rapport de certains types avoir un rapport avec Hachem, c'est ça ma sainteté. Hachem a bien voulu, si vous voulez, nous prendre comme partenaire, c'est-à-dire. Il a ordonné, et le sujet qui reçoit ses ordres, ce sont les hommes.
je pense que Dieu dit aussi, à ce moment-là, il a dit, je serai parmi vous.
Ça, Hachem a dit, je serai parmi vous, ça, il l'a dit pour le Mishkan. Il a dit, vous allez construire un Mishkan, et comme ça, et je résiderai parmi eux, et on apprend que Shachanti normalement, ça s'adresse au clan d'Israël. Et donc, quand Hachem dit, vous allez me construire un Mishkan, ça veut dire, on comprend bien que si on construit un Mishkan, une résidence pour Hachem, on va la mettre au milieu, parce qu'on va pas la mettre plus du côté de la tribu de Reuven ou plus du côté de la tribu. Donc, on le met au milieu, que tout le monde soit en fait, à égale distance, si on peut parler comme ça, de cette résidence divine. Mais à ce moment-là, Hachem aurait pu dire, le cher Betocho, je résiderai parmi le peuple d'Israël. Il a dit Betocham, alors la dracha, vous la connaissez, la dracha, ça veut dire, vous allez construire un Mishkan, mais le vrai Mishkan, c'est pas cette construction, c'est dans le cœur de chacun. Hachem dit, je veux résider dans le cœur de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem réside dans le cœur? C'est pas que ça se voit pas à l'échographie. Bon. Mais ça veut seulement dire que le cœur, c'est considéré comme l'organe où on prend qui prend les décisions. Le cœur, il est plutôt là, quoi. C'est pas la pompe, c'est. Le cœur comme étant le chef d'orchestre, en quelque sorte. Donc Hachem dit, je veux participer. Ça veut dire, je veux que chaque fois que vous prenez une décision, vous vérifiez que vous avez pris une décision qui me permet de continuer de rester parmi vous, quelque part. Est-ce que ce que vous décidez là, c'est quelque chose qui est admissible à moi? C'est comme si vous allez, je ne sais pas, dans une conférence et puis on dit des choses qui vous mettent hors de vous et vous dites, je ne peux pas rester ici, je m'en vais. Bon. L'Hachem dit aussi, je m'en vais. Si vous conduisez de telle manière, ça n'a pas de sens que je ne peux pas, c'est, ça me profanerait si je restais là. Hachem dit, je veux résider parmi vous, ça veut dire, je veux que vous me preniez en compte, si vous voulez, dans toutes vos décisions.
Et quelle est la différence entre les brachot qu'on dit justement à chaque mitzvah et les autres parce qu'on ne spécifie pas à chaque fois. Donc est-ce que c'est une mitzvah quand c'est la brachot qu'on dit à chaque mitzvah qui est spécifiée dans la Torah et les autres ce serait
Mais on dit à chacun qu'il chante le mitzvotam, a priori sur les choses qui sont écrites dans la Torah, mais on dit aussi à chacun qu'il chante le mitzvotam sur des mitzvot des Rabbanan. On dit à chacun qu'il chante le mitzvotam et tzivanu al mikra megillah. La lecture de la megillah, elle n'est pas écrite dans la Torah. D'accord? Et pourtant, on dit à chacun qu'il chante le mitzvotam. Ça veut dire que quand les chachamim sont inspirés, bien sûr, quand les Chachamim prennent une décision, cette décision, c'est Torah, c'est ça la Torah. C'est la Torah orale, ce qu'on appelle Torah orale, mais c'est la Torah au même titre, pratiquement au même titre que ce qui est écrit. Alors, la différence entre le cas où les choses sont écrites explicitement, alors il y a aussi et les choses qui sont non pas écrites explicitement, mais qui se déduisent par les fameuses règles herméneutiques standards, et puis il y a les décrets des Rabbanan. Il y a des choses où il n'y a absolument aucun point d'appui dans la Torah. Les Rabbanan ont décidé, comme dans Megillat Esther, il n'y a pas de. Ils ont décidé qu'on allait allumer des Nerot à Hanouka. Ils ont décidé qu'on allait lire la Megillah à Purim. Et c'est devenu des mitzvot, mais des Rabbanan. Et on dit, mais ma chère Kiddushin le mitzvotav, quand vous allez allumer les Nerot de Hanouka, vous dites, ma chère Kiddushin le mitzvotav, et si ben nous, les Adlik, Ner, Shel ou pas, Shel, Hanouka. Pourquoi vous dites à chaque fois le mitzvotam, c'est pas écrit?
Dans les brachot du matin, on ne spécifie pas. Par exemple, la servir
Là-bas, ce sont des mitzvot où, d'abord, on dit pas à chaque fois là-bas,
oui, justement,
là-bas, mais
mais.
parce que c'est autre chose là-bas. Y a les brachot des mitzvot où on dit, tu nous as sanctifiés. Et en particulier, tu m'as donné la mitzvah X et la mitzvah Y et la mitzvah Z. Alors, Kitchanu be mitzvotav, Vetzivanu, Ladik, qu'est-ce que vous dites? Ner shel Shabbat, ou Ner shel Yom Tov. Bon. Pourquoi? Parce que ça se déduit de Zachor et Shamor, qui sont dits sur le Shabbat. C'est pas non plus explicite, c'est marqué nulle part dans la Torah. Que tu allumeras des Nérotes Shabbat. C'est clair? C'est pas marqué. Et pourtant, vous dites à chaque Kitchano,
Donc, c'est sur les actes qu'on dit à chaque fois. Parce que dans les petits brachot du matin, ça n'apparaît pas et on est
non,
pourquoi.
mais là-bas, on ne dit pas à chaque Kitchano, parce que c'est pas ça le but de la bracha. Il y a des brachot dans lesquels on reconnaît, on rend grâce à Hachem de nous avoir sanctifiés et de nous avoir permis ou ordonné de faire telle ou telle mitzvah. Quelque part, c'est une façon de dire, je fais pas ça de ma propre initiative, je le fais parce que c'est une façon pour moi d'être proche d'Hachem, puisque je fais ce qu'il m'a demandé de faire. Un peu comme quelqu'un vous demande de faire quelque chose. Bon, alors, suivant la relation que vous avez avec la personne, vous allez faire ou pas. Vous allez faire en traînant les pieds, ou bien vous allez faire en courant et avec simcha ou pas. Ça dépend. Et qui vous demande de le faire?
Et ça, la mise votre matin, on dit.
Dans les mitzvot du matin, on ne dit pas Asher Kitchanu Mitzvotav. On dit
Mais
Baruch
la.
Atah Hashem, par exemple, vous dites Shelo Asani Isha.
On dit la
Oui.
sévérité.
Pardon? Ah, ça, c'est la bracha sur la Torah.
Mais
Ça,
c'est
c'est autre chose.
pas
Ce
la.
c'est pas c'est les brachot sur la Torah, c'est pas des brachot du matin. Il se trouve qu'on le dit le matin parce que on est au début de la journée, mais c'est hein, les autres mitzvot, les autres brachot, certains disent jusqu'à quand est-ce qu'on peut les dire? Il y a certaines autorités qui disent qu'on peut les lire toute la journée. C'est l'âge qu'il y a jusqu'au coucher du soleil.
Même si on a cédé à son réveil là, mais sinon on peut le faire.
Oui, même si, par
Parce que...
exemple, il y a une bracha, chez un Sanicode sans qui me fait tout ce dont j'ai besoin. Ça, par exemple, cette mitzvah-là, cette bracha-là, la plupart des gens disent on ne la fait pas à Yom Kippour. Pourquoi? Parce que quand on peut manquer pas mal de chaussures, ça ne s'appelle pas colson. Mais quand est-ce qu'on la fait? Ben, le soir, quand on va se rechausser, et, alors on dit cette bracha, je me demande, cher Sali Kotso.
Il me semblait que c'était le sang, il ne faut pas dire ça parce qu'on a plus le mésamique.
Ça ne sert à rien à
D'accord? Alors, quoi peut-on dire qu'il nous a donné tout ce dont on a besoin?
Dieu nous avait donné ça, on l'a perdu.
Voilà.
Si on vous donne quelque chose, vous le perdez, mais ça
Oui.
n'empêche pas qu'Hachem vous l'a donné.
D'accord, mais maintenant, je trouve que c'est un peu plus fort. Déjà, tu vas donner tout ce qu'il voulait, mais moi, quelque chose.
Non, mais ça, c'est. Hachem nous l'a donné, on l'a perdu. Alors maintenant, on va demander à Hachem, redonne-le-moi ou permets-moi de le racheter, ou etc. C'est déjà une autre affaire. C'est pas.
La terre d'Israël, elle est juste un instrument,
Elle est?
elle est un instrument de mitzvah.
Oui. Mais elle est aussi. Ah, il y a quelqu'un là. Alors. Et là, elle est aussi le milieu naturel du peuple juif, en fait. Donc, justement, du fait que dans ce milieu-là, on peut faire la totalité des mitzvot qui nous sont proposées, qui nous sont données, alors que maintenant, ici, même en dehors d'Israël, même s'il y avait le Beth Amikdash, on ne pourrait pas faire, en dehors d'Israël, toutes les mitzvot. Les mitzvot, si j'ai un champ, en France, vous avez acheté un champ, et vous pouvez aller moissonner, vous pouvez moissonner la totalité, vous n'avez pas de, il n'y a pas de mitzvah de laisser Péas ou de Chikra ou Leket.
Qu'est-ce qui est saint? Quelle est la matière qui est saint? Les corbanotes?
Oui, Ekdesh, ce sont les corbanotes. Ça, c'est ça qu'on a, ce qu'on appelle le Kodashim, c'est ça. La terre, il y a des degrés de Kdusha. Par exemple, il y a plus de Kdusha en Eretz Israël qu'il y en a en France. Il y a plus de Kdusha à Yerushalayim qu'il y en a à Tel Aviv. Il y a plus de Kdusha sur le Harabait qu'il y en a sur, je sais pas, à Katamon, ou etc. Et le summum, c'est le Beth Amikdash et le Kodesh HaKodashim. Dans le Beth Amikdash lui-même, il y a des parties où n'importe qui peut entrer, des parties où seuls les Kohanim peuvent entrer, et puis il y a une partie où seul le Kohen Gadol entre une fois dans l'an, une fois l'an, à Kippour. La hiérarchie, elle existe. Il y a des degrés de Kedusha supplémentaires, mais ça se traduit par qui est-ce qui a accès à cet endroit-là. C'est pas que je sais pas qu'il y a plus de Kedusha dans la mode de terre en question. Les brachot du matin, la question c'est le mot Baruch, qu'est-ce que ça veut dire? On traduit souvent Baruch par béni, ou béni sois-tu, etc. Haïm de Bologine, il explique que Baruch, c'est un mot qui veut dire amplifie, multiplie, amplifie. Donc, quand vous dites amplifie telle et telle chose, ça veut dire que vous demandez à Hachem d'amplifier son investissement dans tel ou tel domaine. Il aurait pris à Adama, demandé à Hachem d'amplifier son rôle de créateur des fruits de la terre, des légumes ou des fruits de la terre. Lui demander d'amplifier. Et par exemple, quand on dit chez le Hassani Goy ou Nochri ou Ovet Kochamim, je ne sais pas comment vous dites, vous dites Nochria, Goya ou Ovedet Kochabim, je ne sais pas comment vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez qu'Hachem vous aide à ne pas être Goy, Nochri, etc. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on disait il y a une espèce d'inertie qui fait qu'on a tendance à être idolâtre. Il faut s'arracher de l'idolâtrie. Et on n'en a jamais fini. C'est pour ça qu'on demande tous les jours à Hachem, aide-moi à m'arracher à l'idolâtrie. C'est-à-dire, amplifie ton rôle, en quelque sorte, de celui qui aide à s'arracher à l'idolâtrie. Par exemple, ça pourrait vouloir dire, manifeste-toi plus. Ça me sera plus facile de m'arracher à l'idolâtrie, quand je verrai clairement que c'est Hachem qui gouverne le monde. Mais si Hachem avait voulu se montrer complètement, alors on serait des robots. On ne pourrait pas choisir autre chose. Donc notre choix serait pas, n'aurait pas de valeur. Si on ne peut pas choisir autre chose que Hachem. Donc c'est. La lumière, elle se voit par rapport à l'obscurité. S'il n'y avait que de la lumière, on ne verrait rien du tout. On a besoin des contrastes.
Dire si Hachem se montrait complètement, il se montre, me semble-t-il, complètement tous les jours. C'est moi qui ai sur le.
Non, si Hachem se montrait complètement, vous ne pourriez pas dire c'est moi. Même vous n'y arriverez pas. Pas possible. Si Hachem se dévoilait, c'est une évidence telle que rien faire.
Et pourtant, excusez-moi, mais je dévoile dans plein de choses. Au fur et à
Mais
mesure,
oui, il
on
se
sait quoi dire
dévoile. Il
autrement.
se dévoile si on veut.
Oui, voilà.
Mais si tu ne veux pas, tu peux ne pas vouloir. Mais comment tu peux ne pas vouloir? Si Hachem se dévoilait complètement, tu ne pourrais pas ne pas vouloir. Alors, pour continuer, on dit que l'année sabbatique, donc cette fameuse septième année, ce sera un Shabbat l'Hachem. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Hachidi, le Shem Hachem. Un Shabbat en l'honneur d'Hachem. Que Shem Shenemar be Shabbat Bereshit. De la même manière que dans Shabbat Bereshit, c'est le Shabbat de la création, d'accord? Et c'est le Shabbat tel que nous le vivons tous les 7 jours. Le Shabbat que nous faisons, c'est un Shabbat qui est fait l'Hachem. Ça veut dire que ce n'est pas un jour de chômage. Ce n'est pas un truc pour permettre aux gens de se reposer. Parce que dans ce cas-là, on pourrait le mettre n'importe quand. Il y avait un projet. Je me souviens quand, à un moment donné, en Israël, quand ils ont fabriqué le port de Ashdod. Un port qui n'existait pas. Il y avait un projet de faire de Ashdod une ville dans laquelle le Shabbat n'existerait pas. Shabbat, ce serait le jour de congé qu'on aurait. Et donc là, par exemple, le Rav de Ponyvesh, à ce moment-là, il a dit, je vais faire une yeshiva là-bas. J'étais à l'inauguration de cette yeshiva. Il y avait des dizaines de milliers de personnes dans le sable, quoi. Il n'y avait rien, il n'y avait encore rien du tout. Il a dit, je vais mettre une yeshiva ici. Et effectivement, Ashdod est devenue une ville normale. Mais il y a toujours des projets, des gens qui ne veulent pas de la Torah, donc en particulier en Israël, et il y a des projets de faire oublier le Shabbat. Il y avait le projet de Modi'in. Modi'in c'était un projet de faire une ville sans mikvé, sans synagogue, sans rien de juif. Et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il y a plein. Mais il y avait un projet. C'était ça le projet initial. C'est difficile à admettre, mais c'est comme ça. C'est ça le projet. Donc, quand on dit que le Shabbat, c'est un Shabbat Hashem, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un jour de congé au sens habituel du terme. C'est vrai que, historiquement, ça a commencé comme ça parce que, vous connaissez l'affaire, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il était prince d'Égypte, il a suggéré à Paro, il lui a dit, tu sais, le rendement des gens serait bien meilleur si on les laissait se reposer un jour. Que tu les fais travailler tous les jours, ils sont épuisés, que le rendement serait meilleur. Et il a convaincu Paro. Et il a choisi de faire que ce fameux jour de repos, ce soit Shabbat. Donc les Bnei Israël ont fait Shabbat, mais pas du tout encore. Shabbat Hashem, c'était, ils ont eu un jour où ils n'ont pas travaillé. On peut dire, c'est une approximation du Shabbat, mais c'est pas Shabbat du tout, c'est pas ça Shabbat. Shabbat, le vrai Shabbat, il est Shabbat, la Hashem. C'est un Shabbat qui est consacré à Hashem. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire consacré à Hashem? Alors, ça veut dire que cette journée-là, elle ne sera pas comme les autres jours. On va avoir d'autres, on aura d'autres impératifs en fait. On aura une autre organisation de la journée. Et ça va se traduire par des choses que on ne fera pas comme on les fait le reste du temps, c'est-à-dire pendant les 6 jours par rapport à Shabbat de Réchit et les 6 années par rapport à l'année sabbatique. Concrètement, c'est quoi? Alors, c'est ça, le détail en question, il nous est donné la Torah, dans la Torah. La Torah, elle dit, Shesh Shanim, voilà comment on fait le Shabbat de la Shemitah, le Shabbat de la terre. Ça commence par Shesh Shanim Tizra Sadecha. Pendant 6 ans, tu vas ensemencer ton champ. Ensemencer, ça veut dire tu sèmes et puis tu fais tout le processus qui vient. Évidemment, c'est pas seulement ensemencer. Bon, c'est tu vas labourer, tu vas semer, tu vas enlever les mauvaises herbes, tu vas etc. Et tu vas récolter. Shanim tizmor karmecha. Et pendant 6 ans, tu vas aussi, disons, tailler ta vigne. Ve à sapta tu vois, et tu récolteras. Ou bashana, mais la 7e année, Shabbat, Shabbaton, yé la haaretz, il y aura un Shabbat complet pour la terre, c'est-à-dire Shabbat l'Hachem. Comment ça se traduit? Alors, le contraire de ce qu'on a dit avant sur les 6 jours. Sadra lotizra. Ton champ, cette année-là, tu ne l'ensemenceras pas. Parmecha lotizmor. Ta vigne, tu la tailleras pas. Donc, dans la Torah, l'interdit, il est dit en termes de agricole, en quelque sorte. Essentiellement, c'est semer pour le processus de la de récolte de céréales et tailler la vigne, c'est-à-dire pendant tailler aussi les arbres fruitiers, etc. Tailler la vigne par rapport aux arbres. Donc, les champs et les arbres, tu t'en occupes pas. Alors, concrètement, on va dire, on va permettre de faire seulement ce qui est nécessaire pour que l'arbre ne meure pas, pour que le champ ne s'abîme pas. Mais on ne pourra pas semer ou tailler la vigne, semer les champs et tailler la vigne pour produire quelque chose. Ça ne sera pas permis. De la même manière, sur le Shabbat de Bereshit, qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce que vous savez de la Torah sur Shabbat Bereshit? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras toute ta melacha, tout ton, on va traduire melacha par travail, pas tout ton travail pendant. Donc, on n'est pas entré dans le détail parce que tous les. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'appelle travail. C'est donc partout le mot travail nécessite une définition. Est-ce que c'est le travail au sens de la physique? D'accord? Ça veut dire est-ce que c'est le travail en termes de sueur? Est-ce que c'est quelle est la définition de des travaux que tu pourras faire pendant les 6 jours et que tu feras pas pendant le Shabbat? Dans la Torah, c'est pas marqué. Il y a un travail qui est interdit et qui est écrit dans la Torah, qui est, oui, lo tevaru esh b'chol moshpatechem. Vous ne ferez pas de feu dans toutes vos résidences. On en a parlé au Shiur, je crois, il y a 2 semaines. Pourquoi c'est marqué dans les résidences? Et en fait, il y a une deuxième chose qui est écrite, et qui n'est pas évidente, c'est marqué Al Yetse Ish Mimkomo. Un homme ne sortira pas de son lieu. Et au lieu de dire, on apprend qu'on ne peut pas sortir de son lieu, c'est-à-dire on ne peut pas sortir de ce qui s'appelle le Troum de Shabbat. Il y a une certaine distance qu'on ne peut pas franchir, on ne peut pas sortir d'une certaine manière. Dans la ville dans laquelle on est, on peut se promener toute la ville, mais il y a une distance. C'est-à-dire, en gros, on pourrait dire, c'est pas comme ça, mais on pourrait dire qu'on va faire un cercle autour de la ville, d'accord? Et le rayon en question, ce sera un rayon qui est, bon, le rayon de la ville plus 2000 amot, disons, plus 2000 amot, c'est à peu près 1000 mètres, ouais, disons comme ça. Donc tu peux pas sortir à pied, même sans rien porter. Tu peux pas t'éloigner de. Alors maintenant, ça va nécessiter de définir, par exemple, jusqu'où va la ville? Jusqu'où elle va la ville? Une ville comme Paris, elle s'arrête quand? Ou Londres, ça s'arrête quand? Quand est-ce qu'on va dire qu'on n'est plus dans la ville? Alors aussi, il faut évidemment une définition. Et c'est des définitions qui sont traitées. Il y a un traité qui s'appelle Eruvin, dans lequel on travaille cette question-là. On regarde quel modèle de ville on va faire. Est-ce qu'on va assimiler la ville à un carré, ou à un rectangle, ou bien un cercle, etc. Et ça, c'est marqué Al Yetse Ish Mimkomo. Un homme ne peut pas sortir de son lieu. C'est ça. Mais on lit aussi Al Yotsi Ish. Un homme ne peut pas sortir quelque chose. C'est de là qu'on apprend qu'on ne peut pas faire sortir quelque chose. Après, il faudra définir quelque chose. Quelque chose, on ne peut pas le faire sortir du domaine privé dans le domaine public, ni le faire entrer du domaine public dans le domaine privé. Encore faudra-t-il ensuite définir qu'est-ce qui s'appelle domaine privé. Qu'est-ce qui s'appelle domaine public? Alors, bon, vous voyez bien que chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a un monde qui s'ouvre et qui nécessite qu'on s'investisse, qu'on discute toutes ces questions-là. Mais à part ça, tout le monde connaît que la Torah, elle dit que il y a 39 travaux qui sont interdits le Shabbat. Alors, ce chiffre de 39, il est obtenu de façon assez acrobatique des raisons, disons, de gématria, de valeur numérique, Mais surtout, une fois qu'on a établi qu'il y a 39 travaux, il faut définir lesquels. C'est quoi les 39 travaux? Alors, on a construit la chose de la manière suivante. On a dit, on veut pas faire, qu'est-ce qu'on fait là, toute la semaine, qu'est-ce qu'on fait? On construit le monde. De toute façon, ouais. Alors, on va pas construire le monde pendant Shabbat. C'est quoi le monde? Alors, on a trouvé, il y a, bon, c'est construit sur des juxtapositions de versets, mais l'idée, c'est que, en fait, on considère que le Mishkan, le tabernacle, c'est un monde en petit. Bon, c'est la résidence d'Hachem. Or, la résidence d'Hachem, c'est le monde entier. Donc, quand Hachem dit je résiderai là, ça veut dire que cet endroit-là, c'est en petit, la même chose que le monde. Et donc, on s'est dit, alors, construire le monde, au fond, on pourrait dire que tout ce qui contribue à la construction du Mishkan, ça s'appelle, c'est ça les travaux qui sont les travaux qui construisent le monde. Et donc, il a fallu analyser tous les travaux qui ont été nécessaires à la construction du Mishkan. On a construit le tabernacle, alors on avait des matériaux, il a fallu faire toutes sortes de choses, il a fallu couper, scier des choses, il a fallu emboîter des choses, il a fallu faire toutes sortes de choses, il a fallu chauffer pour produire par exemple des colorants, on a dû chauffer. Pour qu'on ait un liquide qui va pouvoir colorer. Pour colorer, il fallait colorer des peaux de bêtes, il fallait colorer des tissus, il fallait tisser, il fallait faire. Et puis après, on a dit, oui, mais à part ça, l'homme vit de pain aussi. Donc tout le travail nécessaire pour la fabrication du pain, tous les travaux, c'est-à-dire la fabrication de la pâte, et puis ensuite la cuisson, etc. Tout ça, ce sont des travaux. Et ça nous a permis de définir les 39 travaux en question. Donc, c'est comme ça, c'est ces travaux-là qu'on ne pratique pas le jour de Shabbat, pour bien montrer que ce jour-là, on ne construit pas le monde. On vit pourquoi alors? Quand Kadosh Baroukh a créé le monde, le Messiah Tesharim, il explique que Hachem a créé un monde, il a créé un monde pour le bien de l'homme. Il voulait faire du bien aux hommes. Et le bien aux hommes, là, c'est quoi? Eh bien, ça sera le fait de jouir, si vous voulez, de l'éclat de la présence divine. C'est-à-dire, Hachem se dit, voilà, Hachem, c'est la bonté même. Et donc, voilà, je vais rayonner de ma chaleur, de ma bonté, etc. Les gens vont rayonner, ils vont vivre de ça. Simplement, ils vont être là et ils vont bénéficier. Mais, on n'a pas voulu, Hachem n'a pas voulu nous mettre d'emblée dans un monde comme celui-là, parce que il y a ce qu'on appelle, on en a déjà parlé, quelque chose qui s'appelle Naamad Kisufa, c'est-à-dire le pain de la honte. C'est-à-dire que quand vous donnez à quelqu'un qui mendie, si vous lui donnez un morceau de pain, vous l'avez donné du pain, mais vous lui avez fait, d'une certaine manière, on lui fait honte. C'est honte parce qu'il doit accepter que quelqu'un d'autre lui donne. Alors, pour éviter, alors, si Hachem nous avait donné, alors, on a reçu, mais on a reçu et on a honte d'avoir reçu sans avoir rien fait. Alors, la meilleure façon de donner sans faire honte, c'est donner la chose de telle sorte qu'elle apparaisse comme un salaire. Parce que dire salaire, ça, j'ai travaillé, c'est normal qu'on me donne. Donc, Hachem a dit, voilà, vous allez recevoir un salaire. Le salaire, ce sera le salaire que vous recevez pour avoir fait les mitzvot que je vous ai demandé de faire. Donc, vous avez un travail à faire. Si vous faites ce travail, tout comme tout travail mérite salaire, Le salaire, ce sera le fameux monde qu'on appelle Olam Haba, éventuellement, le monde à venir, qui vient. Dans ce monde-là, effectivement, vous allez pouvoir jouir, quoi, en sachant que cette jouissance-là, vous l'avez gagnée par votre travail, en quelque sorte. C'est comme ça. Et du coup, comme on veut que le Shabbat soit aussi ce qu'on appelle, dans les Smirot aussi, on appelle ça le Shabbat, on dit que c'est Me'ein Olam Haba. C'est une espèce d'avant-goût du monde à venir. Or, dans le monde à venir, on ne travaille pas. Et donc, c'est encore une raison supplémentaire pour le Shabbat qu'on ne travaille pas. Et dans le monde à venir, c'est un monde de jouissance. Alors, il y a le Shabbat, ce qu'on appelle Oneg Shabbat, la jouissance du Shabbat. Il se manifeste par toutes sortes de modes de jouissance, ça veut dire en particulier manger, boire, enfin, étudier les choses qu'on a envie d'étudier, voilà, parler avec les gens avec lesquels on a envie de parler, etc. Tout ça, ça fait partie du Oneg Shabbat, et entre autres, dans le Oneg Shabbat en gros, il y a aussi, par exemple, d'avoir de la lumière. Parce que, bon, nous, on appuie sur un bouton, mais le problème de la lumière, ce n'est pas un problème évident. Il fallait prévoir de la lumière. Il fallait préparer avant Shabbat, lumière qui allait brûler pendant Shabbat, ou au moins pendant la soirée, telle sorte qu'on ne se cogne pas les uns dans les autres. Donc, ça, c'est la mitzvah. C'est pour ça que vous allumez des bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, vous les allumez, c'est une lumière fonctionnelle. Donc, on ne se cogne pas les uns dans les autres. En opposition aux lumières de Hanouka, ce sont des lumières qui ne sont absolument pas fonctionnelles, qui ne doivent pas être fonctionnelles. C'est pour ça qu'on allume ce qu'on appelle un shamash, qui lui est fonctionnel. C'est que les lumières de Hanouka sont simplement là pour qu'on les voie et qu'on se rappelle du miracle de Hanouka. Mais ce n'est pas fonctionnel. C'est complètement différent, les lumières de Shabbat et les lumières de Hanouka. Bon, ça nous a amené sur notre terrain. Mais alors, et la septième année, donc, ce sera Shabbat Hashem. Alors, on te dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les choses qui vont pousser d'elles-mêmes? Ça, tu pourras le prendre, mais tu n'auras pas besoin de. On ne va pas en faire du commerce, mais tu pourras manger les pousses qui vont pousser toutes seules la septième année. Ça sera permis. Alors, maintenant, ça va encore un peu plus loin. Et ça, hein, si vous voulez, dans l'année sabbatique, tout à coup, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'année sabbatique, c'était l'image au niveau des années du Shabbat de la semaine, quoi, des jours. Et maintenant, on continue. On continue, alors on va dire, voilà, il y a 6 années plus la septième année que la Shemitah, et après, on va recommencer. Et on va dire, quand il y aura 7 Shemitot, c'est-à-dire 7 fois 7 années, bon, on va rappeler un peu que ça fait 49, oui. Quand sont passées ces 49 années durant lesquelles vous aurez eu 7 années sabbatiques, la 50e année, elle a un statut à part. Elle a le statut c'est quelque chose qui s'appelle Yovel. Yovel, c'est en français, c'est ce qu'on appelle le jubilé. Et le Yovel, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'a pas son pareil dans les jours, sauf dans ce que nous sommes en train de faire maintenant. D'accord? C'est-à-dire, maintenant on est en train de compter l'Omer. Donc nous, on compte bien 7 semaines et le 50e jour, ou le jour, ce sera Shavuot, c'est-à-dire Yom Tov. Et ça, c'est à un moment bien précis de l'année. C'est pas, on va pas compter systématiquement. Dès qu'on a 7 semaines, on va faire un Yom Tov. Mais quelque part, on voit que cette structure qui n'existe que pour Matan Torah, que par rapport au don de la Torah, elle existe en Eretz Israël en permanence à l'échelle des années. C'est-à-dire à l'échelle des Shemitot, quand il y aura 49 ans, c'est-à-dire 7 Shemitot, la 50e année, c'est un Yovel. Le Yovel, alors là-dessus, je ne peux pas entrer maintenant dans le détail, mais le Yovel, c'est encore une espèce, une année super sabbatique, si on peut parler comme ça. Et en particulier, il y a dans le Yovel deux choses fondamentales, qui est que les esclaves sont libérés, d'une part, et deuxièmement, les champs patrimoniaux retournent en général à leur propriétaire initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël, sous la direction de Yoshua, ils ont conquis la terre. Ils ont dû faire la guerre contre les Cananéens, les différents peuples cananéens qui étaient là. Ils ont gagné la guerre. Ils se sont installés. Et ils ont partagé la terre entre les différentes tribus. Alors, les tribus ont reçu chacune une partie de la terre d'Israël, avec l'exception évidemment que la tribu de Lévi, qui contient aussi les Kohanim, n'a pas reçu de terre, parce que la tribu de Lévi et les Kohanim, ils sont requis de travailler en permanence pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan, et puis ensuite le Tamigdash, et pour enseigner la Torah. Et donc, ils ne peuvent pas posséder des terres parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, qu'ils sont requis, non, ils sont obligés de se consacrer à ces deux choses, l'enseignement essentiellement, donc il faut qu'ils étudient pour pouvoir enseigner, et deuxièmement, le travail, au Beth Amikdash. Donc, eux n'ont pas reçu de terre, les autres ont reçu des terres. Et ensuite, à l'intérieur des tribus, ils ont réparti les terres entre les différentes familles qui constituaient les tribus. Et donc, les gens ont reçu un champ qui s'appelle un champ, une partie de le champ patrimonial. Ça, leur patrimoine. Et maintenant, toutes sortes de raisons, il peut se trouver que ce champ-là, ils ont voulu ou ils ont dû le vendre, etc. Eh bien, tous les 50 ans, le champ patrimonial revient à sa place. Et par conséquent, quand vous achetez un champ patrimonial, en fait, ce que vous achetez, vous n'achetez pas vraiment le champ, puisque au bout de 50 ans, au maximum, mais peut-être beaucoup moins, parce que si vous l'avez acheté alors qu'on était la 20e année et vous avez 30 ans devant vous, mais c'est tout. Donc, au maximum 50 ans. Donc, alors que ça veut dire quoi? Alors, la Torah dit que ce qu'on achète, ce sont des récoltes. Voilà. Tu as acheté la 20e année de, bon, ben alors, tu as acheté 30, on est dans la 20e année, donc il en reste 30, si vous voulez, ou 29. Et tu as acheté 29 récoltes. Et donc, on va payer, évidemment, pour 29 récoltes et pas pour 50 récoltes. Donc, si vous voulez, on n'a pas véritablement de propriété en achetant. Ah, vous me direz, il y a la propriété initiale. Oui, mais ça, c'est particulier. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas... Ils l'ont pas acheté, ils n'ont pas... Ils n'ont pas gagné, ça leur a été donné. C'est comme ça, c'est comme les données, c'est la donnée de chacun. On est un homme, une femme, on est grand, petit, intelligent, moins intelligent. On est tout ça, c'est les données biologiques. Mais il y a aussi il y a des données économiques qui font que tu as reçu un champ comme ceci ou comme cela.
Et
Et tu as envie ou tu n'as pas envie de t'en occuper, Alors tu l'as vendu, etc. Ça revient, il faudra le revendre, le cas échéant. Ça revient pas obligatoirement à la même personne, parce qu'au bout de 50 ans, c'est pas, c'est peut-être ses enfants et tout. Et là, ça reste dans la famille. On sait pas très clair parce qu'il y a des problèmes d'héritage. Et en vérité, on a du mal à comprendre comment ça se passe. Parce que si vous avez un temps, une famille qui a reçu, un bonhomme a reçu un certain champ. Et après, il a des enfants. Et les enfants vont hériter. Alors, au bout d'un moment, ils ont à peu près un confetti chacun. Vois, un héritage. Donc, c'est pas très clair comment ça se passe, cette histoire. La notion d'héritage, elle existe dans la Torah. Donc, si vous héritez au fur et à mesure, au bout d'un certain temps, il reste un confetti pour chacun, et même pas. Donc, on a grosso modo les confettis.
Ça fonctionne actuellement.
Non, aujourd'hui, on a, premièrement, plus personne ne sait qui il est. Et alors, à part ça, il y a d'autres raisons qui font que, en tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas, ça fonctionne pas comme ça. Par ça, le fait qu'en Eretz Israël, on n'applique pas du tout les lois de la Torah. Les lois qui sont appliquées, c'est des lois turco, anglo, franco, un petit peu de la Torah, mais pas du tout les lois de la Torah. Il y a des gens qui veulent, entre eux, mais bon, il y a même des lois qui ont été faites que ils refusent de reconnaître cet arrangement d'après la Torah. Pardon?
C'est ceux qui sont juifs en Israël.
Non, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que.
Donc, je reviens.
Oui.
Comment on peut avoir dans la Torah quelque part un mode de fonctionnement qui n'est pas fait pour nous? À chaque fois, on voit qu'on apprend, tout ce qu'on nous enseigne, c'est pour en apprendre quelque chose.
Non,
Et la
trois pas chaque fois. Ici, cette chose-là, je ne sais pas moi-même pas vous dire comment ça se présente, parce que je n'ai pas vraiment bien compris.
C'est complexe.
Comment c'est possible, pardon?
C'est très complexe, on ne comprend pas comment ça s'applique.
Oui, mais moi, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mieux compris. Pour l'instant, je n'ai pas encore entendu de bonne explication. Mais si vous voulez, le problème, c'est simplement que il y a le. D'abord, il y a l'idée même qu'on n'est pas propriétaire. Or, que même ce que la Torah dit clairement au Bnei Israël, la terre, elle est à vous, mais si vous ne vous conduisez pas comme je veux qu'elle vous conduisiez, la terre va vous vomir. Et malheureusement, elle nous a déjà vomi. Bon, le fait de partir en exil, c'est la terre n'a pas voulu de nous. Il y a certains textes qui disent que les fameux 70 ans de l'exil de Babel, le premier exil, l'exil est consécutif à la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, par Nabuchodonosor, et l'exil des Bnei Israël, qui s'appelle Babel, mais qui ensuite, les Babyloniens ayant perdu la guerre contre les Mèdes et les Perses, ça a continué, on est devenu sujet des Mèdes et des Perses. Il y a un célèbre qu'on connaît, il s'appelle Ahasvéroch. Bon. Et après, et ça a duré 70 ans. Et alors, certains disent que les 70 ans, ils correspondent à toutes les années de Shemitah que les Bnei Israël n'ont pas respectées. Il y a un passouk qui dit, Az, alors la terre, elle aura ce Shabbatot. Je vais vous, parce que on va voir on va pas le voir, je pense, mais on va le lire ce Shabbat. Ce qui va se passer si on ne fait pas des choses, alors il y a la fameuse malédiction de Chocotag, dans laquelle on voit très bien ce qui se passe quand on ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est assez tragique. Le Ramban dit que les malédictions qui sont écrites dans le Chocotag, elles ont eu lieu au premier Beth Amikdash. Et celles, parce qu'il y en a des pires, dans le Sefer Dvarim, où il y en a le double. Et là, le Ramban dit, ça a eu lieu au deuxième Beth Amikdash. La destruction du deuxième Beth Amikdash. On espère, c'est souhaitable. Parce que si ça, parce que ces choses sont tellement terribles, si on doit, d'un autre côté, on a l'impression que certaines des choses qui sont dites dans ces clalotes-là, elles résonnent, comme les choses qui ont été racontées de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre. Donc, et bon, à part ça, il y a eu d'autres moments où, effectivement, il y a eu deux énormes problèmes, à part tous les pogroms et tout. Il y a eu, en 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne et l'Inquisition, qui s'en est suivie, encore avec des tortures, à imaginer ce qu'ils ont imaginé comme torture. Et les, d'un côté, et puis après, il y a eu la Deuxième Guerre. L'Inquisition, ça a frappé les Juifs d'Espagne, c'est-à-dire dans le monde séfarade. Et essentiellement, la Deuxième Guerre, ça a frappé le monde ashkénaze, plus que le monde séfarade. Bien qu'il y a aussi eu Salonique, etc. Donc,
On espère que tout ça, ça.
pardon?
On espère que toutes ces malédictions, elles ont été
Oui,
dites.
on espère, on a déjà donné. Mais bon, c'est pas très évident. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui arrive, en particulier ce qui arrive dans notre relation avec la terre d'Israël, ça a un sens. Un sens, ça veut dire, puisque nos relations avec la terre d'Israël, c'est ça la Kedushat HaAretz, c'est ça la sainteté de la terre d'Israël, et que si on respecte pas la sainteté d'Israël, c'est la Kedushat du peuple même, du peuple juif aussi, qui est en jeu. Et donc, dans les choses, certaines, tout ce qui arrive en théorie dans l'Eretz Israël, en particulier, mais tout ce qui arrive pour le peuple juif en général, et en particulier en Eretz Israël, ça a un sens et ça implique qu'on essaie d'y réfléchir et qu'on essaie de réparer les choses qui, a priori, ne fonctionnent pas bien. La preuve, c'est qu'il y a une sanction fait que la terre ne joue pas son rôle, quoi.
Le fait qu'on soit en Khoutz Laaretz et que quelque part il y a une Torah qui se développe en Khoutz Laaretz et qui s'est développée d'une façon. Est-ce qu'on peut mettre ça en lien avec le fait que, avec ce principe-là qu'on a énoncé, le Narvad et qui se développe? Il fallait qu'on fasse quelque chose pour pouvoir mériter ce que j'allais nous donner.
En fait, quand on est en dehors d'Israël, on est en exil, en fait, on n'a pas d'obligation, on n'a pas de, y a pas des lois spéciales. C'est les mêmes lois que celles qu'on aurait dû respecter en Eretz Israël. Tout ce qu'on peut dire, c'est que là, on doit les respecter dans un environnement qui, a priori, est hostile. Donc si, donc c'est ça le travail. Il faut arriver. Pourquoi il y a plus de travail? Pas parce qu'il y a des mitzvot qui n'existent pas. Au contraire. Mais parce que on doit le faire dans un milieu hostile. Et donc ça demande un gros travail puisque chose qui normalement pourrait se faire en Eretz Israël très facilement, ben ici il faut le faire dans des circonstances très difficiles. Mais effectivement, les Bnei Israël ont fait cela, c'est-à-dire que tout ça, pratiquement tout ça, ça a été écrit sur les croisades, dans les pogroms, à l'époque de l'Inquisition, etc. On a vraiment fait beaucoup de choses. En Eretz Israël, on a moins produit. Il n'y a pas tout le Talmud Bavli sur lequel on vit, il a été produit en Babel, il n'a pas été produit en Eretz Israël. Ce qu'on appelle le Talmud Yerushalmi, qui est le Talmud publié, produit en Eretz Israël, il n'est pas aussi riche que le Bavli, des sujets qui n'ont pas été traités.
Le fait que la table vous ses habitants, si on peut dire une vote, c'est pas lié au fait que l'homme est fait de matière et que aussi c'est comme s'il y avait une attraction, une répulsion entre la terre et l'homme.
Mais l'attraction.
L'attraction, si on est conforme, si on reconnaît les sources se rejoignent et sont.
Vous voulez dire que la terre d'Israël, c'est le milieu naturel pour la pratique des mitzvot. Si on ne le fait pas, tu ne fais pas, tu ne veux pas, alors, c'est ça. Fais-les en dehors. Tu vas les faire à la limite, on peut dire. Si quand Hachem nous permet d'être en Eretz Israël pour faire les mitzvot, il nous facilite la tâche. Tu veux pas que je te facilite la tâche, alors je vais te la rendre difficile, on va voir. La question est toujours, sinon, c'est si on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait quand on avait toutes les cartes en main en Eretz Israël, comment on peut espérer réussir quand on n'a pas toutes les cartes en main, quand on est en exil et qu'on n'est pas en Eretz Israël? À quoi ça sert qu'Hachem nous envoie dans un endroit où on ne peut pas le faire, ben où a priori ça va être difficile de le faire, alors qu'on n'est déjà pas capable, on n'a pas été capable de le faire quand on avait toutes les cartes en main. Ça veut dire qu'on veut provoquer un sursaut. Ça veut dire qu'à la limite, c'est comme si, d'une certaine manière, on avait besoin de l'hostilité, comme on a dit avant sur la lumière. Pour voir la lumière, on a besoin d'un repoussoir, on a besoin de l'obscurité pour voir la différence. Quelque part, c'est, contrairement à ce qu'on pense, c'est d'une certaine manière plus facile en dehors d'Israël que de le faire à l'intérieur d'Israël, parce que à l'intérieur d'Israël, on ne voit pas de, il y a pas assez, c'est pas clairement un repoussoir. Il y a pas de, malheureusement, bon, par rapport à la situation d'aujourd'hui, mais c'est ce qui s'est passé. Mais Israël, et même quand ils étaient en paix, et encore maintenant, quand il y a la paix, ils font des bêtises. Et pour fabriquer de l'unité, il faut la pression extérieure. C'est incompréhensible. Enfin bon, c'est pas vrai qu'on est en train de m'expliquer, justement, mais c'est terrible. Ça, le grand problème, c'est. Alors du coup, il y a des gens qui s'imaginent qu'on va inventer une nouvelle Torah. Une nouvelle Torah qui ne soit pas la même Torah qu'en exil, soit une Torah adaptée aux circonstances actuelles de la vie en Israël, la majorité des gens. Pardon?
Il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui.
Il y a des gens qui considèrent que, voilà, au fond, il est en train de naître quelque chose qui sera une autre forme de judaïsme dans lequel il y aura en même temps, si vous voulez, ben, ça veut dire on va faire kiddush, mais évidemment, on va allumer la télé après pour voir les informations.
C'est déjà
Il y a des
dans
gens qui le font,
certaines.
mais il y a des gens qui. Ils veulent dire que c'est ça la forme de Torah. Alors, si vous voulez, on peut ne grimper pas tout de suite au mur. On peut imaginer que on ait des systèmes suffisamment automatiques pour qu'il n'y ait pas des masses et Shabbat interdits. On ne va pas allumer, on n'a peut-être pas besoin de brancher, ça se fera tout seul, donc ça sera programmé. Comment on fait? Comment on programme programmer votre, comment ça s'appelle, la plata, bien vous programmez la lumière dans votre maison, que elle s'éteigne, ça dépend quand vous voulez faire partir les invités, elle s'éteigne 11h30 ou à minuit, etc. Ça, c'est au choix, quoi. Et donc, tout ça peut se faire de façon, si vous voulez, avec des décalages, avec certains arrangements. Pendant très longtemps, on disait dans certains endroits, il est exclu de construire plus de 3 étages, parce que plus de 3 étages, il faut un ascenseur. Et s'il y a un ascenseur, les gens ne respecteront pas le Shabbat. Et maintenant, il y a plein d'endroits où il y a des ascenseurs de Shabbat.
C'est
Alors, tout le monde n'est pas
accepté.
d'accord avec l'ascenseur de Shabbat, mais il y a un endroit où il y a des ascenseurs de Shabbat avec des rabbanim, même des rabbinim sérieux, qui considèrent que on peut se débrouiller pour pouvoir
Alors,
bénéficier d'un ascenseur de Shabbat.
ça respecte la loi,
Ça respecte la
ça
loi.
enlève l'esprit.
Ouais, ça dépend.
Voilà.
L'esprit, non. L'esprit, c'est notre esprit à nous. Maintenant,
Non,
si les gens
l'esprit
disent on a un autre esprit,
de Shabbat, je veux dire.
oui, mais l'esprit de Shabbat, il est la résultante de la façon dont nous faisons Shabbat. Mais si on définissait une autre façon de faire Shabbat, alors l'esprit de Shabbat, il serait défini par la façon de faire Shabbat.
Pour
C'est
l'instant,
supposé que ça soit accepté. Et les Rahamim, bon, si vous voulez, c'est pas moi, en cache-route, par exemple, dans la Torah, c'est marqué, tu feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la viande de l'animal ne doit pas cuire dans le lait de sa propre mère. Et si c'est dans le lait d'une autre mère, après ça, ce serait permis. Et si je fais cuire un agneau dans du lait de vache, c'est même plus, pourquoi pas? Et puis après, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec, qu'est-ce qu'on va faire avec la volaille? La volaille, c'est pas de la viande, chacun le sait. Bon, eh bien, il y a eu des moments où la femme n'avait pas encore décidé que la volaille n'était, et c'est pas, jamais décidé que la volaille c'était de la viande, mais on considère qu'on ne peut pas manger aujourd'hui un poulet au beurre. Mais il y a eu un moment où Rabbi Yossi Haglili mangeait du poulet au beurre, parce que la halakha n'était pas fixée que la volaille, c'est pas de la viande. Donc, ce n'était pas concerné par l'interdit de cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Et après, on a décidé que le risque était trop grand de confondre, etc. Donc, on a décidé, dit des rabbanan, justement, dit des rabbanan, considérer que c'est pas du tout la même chose qu'un doraita, comme c'est pas comme si on faisait vraiment cuire de la viande dans du lait, mais on a décidé que c'était ça, ça aussi c'était interdit.
C'est plus que je m'adapte.
Non, mais parce que si vous voulez, nous, pour nous, l'esprit de Shabbat, il a bien entendu été fabriqué à la façon dont nous vivons Shabbat. Maintenant, si on décide qu'on vit différemment, je ne suis pas en train de faire l'article, hein, mais si on imagine qu'il y avait le temps, ou je ne pense pas que ça soit un aggiornamento ou un truc comme ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, voilà, à partir d'aujourd'hui, on fait comme ça. Et peut-être les choses bougent, peuvent bouger, c'est ça que pensent les gens qui pensent ça, ils pensent comme ça, ils pensent que petit à petit, ça bouge. Alors, c'est sûr que les choses bougent, c'est pas comme les gens s'imaginent et tout. Puis on a besoin pour pouvoir admettre certains mouvements, certaines choses, il faut des autorités capables d'accepter et de dire certaines choses. Ce sont des gens qui ont les épaules assez larges pour dire, des gens qui sont tout à fait shomrei mitzvot, qui sont des gens qui connaissent vraiment la Torah, ils disent oui, ça c'est permis, ça c'est pas permis.
Bien, j'entends ce que vous dites, peut-être que je n'aurais pas de visionnaire, mais je sais qu'au début, j'ai déjà dit au début, dans d'autres temps, j'avais posé la question, puisqu'on se sert de minuterie pour la lumière, pourquoi ne peut-on pas, peut-on se servir de minuterie pour la musique? Et la réponse, ça a été, ce n'est pas dans l'esprit de Shabbat.
Il m'a dit, c'est que normalement, la raison pour laquelle on permet pas, parce qu'on permet pas, parce que celui qui écoutera la musique, il sait pas comment vous avez fait. Il sait pas que vous avez fait une minuterie. Et on veut pas donner on veut pas donner le prix. Mais ça se discute. Et ça, c'était quelque chose, la question, elle a été posée bien avant la musique. Elle était posée au moment où on avait les moulins. Et le moulin, il pouvait continuer de tourner avec l'eau, etc. Mais ça faisait un bruit. Le bruit, alors est-ce qu'on avait le droit de moudre, de faire en sorte que le moulin fasse son job, d'accord, pendant un Shabbat? Alors, on dit non, on peut pas parce que ça fait du bruit, donc il faut vraiment complètement arrêter le moulin. Mais c'était ça l'histoire. Donc cette histoire de... On va soupçonner quelqu'un de faire un travail interdit parce que le bruit fait référence à un bruit. Alors maintenant, on peut dire, si vous voulez, vous avez toutes sortes de choses. Qu'est-ce que c'est que l'électricité aujourd'hui? Est-ce que c'est considéré comme du feu? Il faut dire autre chose? Pourquoi c'est interdit d'allumer la lumière électrique? Et pourquoi c'est interdit d'allumer votre téléphone? C'est pas avant quand, par exemple, quand on avait des ampoules où il y avait un filament qui était porté, c'est du métal qui était porté à blanc, quoi, et comme il n'y avait pas d'oxygène, alors ça pouvait tenir le coup. Donc il n'y avait pas d'oxygène. Il y avait de la lumière après dans sa plaquette, dans le plaquette. Et à ce moment-là, on peut dire, ça c'est clair, c'est écrit clairement que de chauffer du métal, c'est aussi interdit Shabbat. Là, on pourrait dire c'est interdit. Mais maintenant, vous avez de l'électricité où ça se saurait si on pouvait cuire un œuf sur votre téléphone, ça se saurait. C'est pas souhaitable pour votre téléphone, mais. Donc, c'est quoi le statut de cette électricité-là, produite de cette manière-là? Tout ça, il y a une littérature là-dessus déjà, et on n'a pas permis, mais c'est vrai que si on permettait certaines choses, tout le Shabbat tel qu'on s'imagine, n'aurait plus, quoi. Mais on va avoir des problèmes. Vous allez bientôt plus pouvoir circuler dans la rue parce que les lampadaires vont s'allumer, les réverbères vont s'allumer au fur et à mesure que vous avancez. J'étais en Californie, j'étais dans la rue et il y avait deux réverbères qui s'allumaient devant nous et qui restaient allumés un derrière. Et alors, marchait. J'avais trouvé que si on marchait au milieu de la rue, il n'était pas sensible, mais c'était un danger fou.
La même chose si on est filmé par une caméra.
Non, dans l'histoire des caméras, si on est filmé par une caméra, que les goïms veulent, on fiche, je veux dire. Parce que, de toute manière, dans la ville, maintenant, où on y est, vous le sachiez ou pas, vous êtes filmé. D'accord? Alors, vous pouvez faire comme si vous ne saviez pas, mais aujourd'hui, on sait qu'on est filmé partout. Il y a des caméras partout.
Et quand la lumière s'allume sur notre passage, c'est pas
Alors,
une
le problème, c'est que si on y voit clair sans la lumière, alors ça ne nous dérange pas. Mais si vous ne voyez pas du tout, bien, vous avez aussi tous ces éclairages, surtout en montagne. Quand vous approchez d'un hôtel comme ça, ça s'appelle lumière d'ambiance pour vous. Tout de suite, vous êtes. Qu'est-ce qu'on va faire si maintenant les systèmes se mettent comme ça? On ne pourrait pas aller à la Shul Yom Kippour, les offrir qu'on lui donne à la maison?
Mais là, cette évolution, je vois que ça répondrait bien à des questions des enfants, par exemple, certains enfants. On va trouver tellement d'astuces que finalement, la situation des fêtes de Shabbat, qui est de s'intérioriser, d'avoir du temps, de libérer du temps,
Oui,
mais là,
oui.
j'en aurais plus.
Alors, on pourrait très bien en avoir beaucoup plus. Hein. Ces automatismes-là pourraient très bien libérer du temps. Pourquoi pas? C'est juste qu'on ne sait pas le gérer. On sait bien le gérer, mais on ne le gère pas bien. Et on pourrait très bien avoir beaucoup plus de temps grâce à toutes sortes d'automatismes.
Le jour où j'arrive, vous en avez
Par exemple, il y a des choses que où il faut se c'est compliqué, il faut se promener avec avec une shabbat, un truc comme ça. Ici maintenant, simplement, je peux aller en visite chez quelqu'un quand j'arrive en reconnaissance faciale ou n'importe quoi et la porte s'ouvre et je peux entrer chez quelqu'un aujourd'hui. Arnasat Okrim, c'est on fait comment? Et pour inviter les gens, il faut les inviter à l'avance parce que shabbat. Vous voulez aller voir quelqu'un Shabbat, comment vous faites? Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas dit exactement à quelle heure vous arrivez, la personne peut venir vous ouvrir, comment vous faites? Vous ne pouvez pas. Le Rambam nous dit que un repas de Yom Tov, dans lequel il n'y a pas de pauvre qui est là, qui est entré parce que il avait envie, c'est pas un vrai repas de Yom Tov. Nous, nos repas de Yom Tov, un peu enfin ici, vous pouvez toujours essayer d'entrer. Yom Tov, si on ne vous a pas convié, vous pouvez pas entrer. C'est problématique. Normalement, on devrait pouvoir entrer chez quelqu'un. Frapper, mais entrer. Nous étions jeunes, les jeunes ne savent pas, mais il y avait des moments où effectivement on pouvait entrer. Hein. Il n'y avait pas de digicode à toutes les portes. Désolé, on a dépassé largement le temps.